Alors, donc voilà, je vais vous parler de la question de la peur de l'imitation. Alors peut-être en partant de là, à savoir déjà que l'imitation, c'est un phénomène naturel de la création dans la plupart des domaines, hein, on pense à la musique, à la littérature, à la peinture. Pour ce qui concerne de la littérature, pour ce qui concerne la littérature, bon, on peut faire la notion d'imitation est complexe et recouvre des réalités très différentes, de l'allusion, de la citation, réécriture, pastiche, parodie, ou même plagiat, même si là on est plutôt dans une dimension légale. Mais moi je n'ai pas voulu me centrer sur une approche narratologique de cette question-là, ce qui avait été déjà, il y a déjà énormément de travaux dessus. Et plutôt, je voulais réfléchir sur la dimension existentielle ou identitaire impliquée dans l'acte mimétique. Et pour cela, peut-être partir d'une différence qui est celle qu'on peut poser entre l'influence et l'imitation, qui sont des phénomènes extrêmement liés, puisque l'influence déclenche souvent des phénomènes mimétiques. Et on connaît des grands influenceurs dans la littérature, on pense à Shakespeare, à Flaubert. Proust parlait hein, d'une intoxication flaubertienne, que Pérec, par exemple, avait éprouvé aussi hein, son premier roman, Les Choses. Il explique que c'était un vouloir être Flaubert qui le dirigeait dans l'imitation de ce style. Et donc, c'est pour ça que l'imitation, qu'on considère souvent comme un phénomène contrôlé, un phénomène parfois ludique, est aussi un phénomène inquiétant pour l'écrivain. Un phénomène, notamment, on voit bien que l'influence, phénomène où il peut y avoir emprise de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, ce qui est en jeu pour l'écrivain, c'est aussi son style. Écrire avec les mots d'un autre, c'est mettre en question son style, et le style, c'est bien ce qui, du point de vue du lecteur ou du point de vue de l'auteur, après, plutôt là je parle en termes de perception, peut être perçu comme une sorte de marque identitaire, de signature textuelle. Donc à partir du moment où vous écrivez dans un style qui n'est pas le vôtre, cela pose une question sur qui êtes-vous en tant qu'écrivain, quelle est votre manière d'écrire. Sachant qu'en plus, il y a une sorte de valeur supérieure autour de laquelle les œuvres sont évaluées, qui est celle de l'originalité. Avec bon, la valeur de l'originalité ayant changé au cours des siècles, hein, 16e, 17e jusqu'au 18e, c'est au 18e que ça bascule, on a un rapport avec l'imitation qui est assez différent de ce qu'on trouvera après le 18e siècle. Mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail là, mais il est clair que la question pour l'écrivain est bien d'être original. Il y a une valeur de l'originalité, donc qui crée une sorte de couple entre l'imitation, associée parfois à la répétition, à l'aliénation identitaire, par rapport à l'originalité, et qui a donc entraîné la nécessité de se positionner chez les écrivains par rapport à ces valeurs, et donc aussi de modifier ou d'infléchir les différentes pratiques mimétiques qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Donc, dans l'essai, si vous voulez, j'ai réparti, j'ai divisé en deux temps mon étude, ce que je vais suivre là pour vous le présenter. Dans une première partie, j'examine ce que je vais vous présenter là, la question des malaises par rapport à la question de l'imitation. Pourquoi est-ce qu'il y a une gêne, voire une peur face à cette question? Et dans un deuxième temps, je vous parlerai des stratégies mises au point pour repenser la question de l'imitation, de sorte que l'imitation ne soit plus l'antagoniste de l'originalité et donc de l'invention. Alors, donc d'abord, les origines, si vous voulez, de la peur ou de la gêne face à l'imitation. Donc il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociales, et je l'ai dit pour commencer, des raisons existentielles ou identitaires. Alors la première chose qu'on peut peut-être observer, c'est qu'il y a de fréquentes critiques à l'encontre de l'imitation qui ponctuent comme ça la littérature. Parmi elles, la première première critique qu'on trouve, c'est souvent une critique un peu indirecte qui associe l'exercice de l'imitation à un exercice d'apprentissage. C'est le fameux à la manière de, qui est, alors dans l'enseignement, pendant très longtemps, on a demandé, c'était un exercice scolaire, écrire à la manière de, inventer une lettre d'Athalie à Phèdre, d'Homère à Racine, enfin, etc. Donc, des exercices scolaires qui reposent sur l'imitation, ce qui provient aussi hein, de la manière dont on conçoit l'écriture à la Renaissance, par exemple, hein, où on doit, c'est de l'innutrition, hein, donc on apprend à écrire en s'imprégnant du style des anciens. Et de ce fait, l'imitation est associée à une sorte d'apprentissage du devenir écrivain, d'entrée dans le métier, et ils sont nombreux, alors notamment Proust, à dire que on commence par imiter avant de créer. Donc, de ce fait, il y a quand même un côté un petit peu dévalorisant. Ce qu'on peut voir dans les différentes scènes, dans certains textes, on trouve ça chez Proust, chez Sartre, chez Sarraute, où l'enfant qui apprend à écrire, ou le jeune, est nécessairement un imitateur ou un pasticheur. Et on a même Céline qui s'en sert pour insulter Sartre dans son pamphlet à la Gîte du Bocage. Je vous en lis un extrait. Il dit toujours au lycée ce petit JBS, JBS c'est Sartre, mais transformé en Jean-Baptiste Sartre, toujours au pastiche, au la manière de, la manière de Céline aussi. Donc, une sorte d'insulte, vous voyez, qui renvoie à un côté scolaire, et il dit que les postulants goncourteux, comme il dit, se copient tous les uns les autres, comme des enfants en classe. Voilà. Et même quand on sort du cadre de l'apprentissage, on constate que l'imitation reste hein, une sorte de reproche qu'on brandit volontiers. Sarraute critique les poèmes de Valéry en disant que ce sont simplement des pastiches. Malebranche critique Montaigne de la même manière. Et puis quand on observe les mises en scène du pasticheur ou de l'imitateur, il y a peu de textes qui mettent en scène des imitateurs. Des figures positives d'imitateurs. La plupart du temps, ce sont des personnages secondaires qui produisent des imitations de mauvaise qualité. Ou alors, les textes vont s'intéresser à des sortes de figures dérivées de l'imitateur, comme le pédant, qui est quelqu'un qui imite effectivement la parole des autres. On trouve ça chez Molière. L'autodidacte, chez Sartre, dans La Nausée, qui est quelqu'un qui a essayé d'apprendre tous les ouvrages de la bibliothèque de Bouville dans l'ordre alphabétique et de les mémoriser par cœur. Et donc il ne sait plus rien dire, penser, faire, qu'il n'ait mémorisé dans un texte. Et on pense aussi aux figures extrêmes du scribe et du copiste qui apparaissent au XIXe, comme Bartleby de Melville ou Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet qui décident, qui sont des vrais imitateurs, hein, de lire et d'imiter, et puis qui à la fin se résignent complètement même à ne faire plus que de la copie, simplement, c'est même plus de l'imitation. Et donc parmi toutes ces figures, il y en a quand même une qui ressort un petit peu, qui est la figure du faussaire, parce que là on a une figure plus contestataire, plus révoltée. C'est un visage qui est souvent noir, mais qui possède ce potentiel de révolte contre l'ordre en place. Alors, on trouve ces faussaires chez Pérec, beaucoup, chez Calvino aussi, ou dans La Place de l'Étoile de Modiano, il y a un personnage qui s'appelle Charles Lévy-Vendôme, et qui a entrepris de réécrire toute la littérature française avec des apocryphes, donc en imitant, mais en transformant en même temps. Je vous lis ce qu'il déclare, son projet, hein. Il dit ceci: j'ai réinventé à moi seul toute la littérature française. Voici les lettres d'amour de Pascal à Mademoiselle de La Vallière, un conte licencieux de Bossuet, une érotique de Madame de Lafayette. Non content de débaucher les femmes de ce pays, j'ai voulu aussi prostituer toute la littérature française, transformer les héroïnes de Racine et de Marivaux en putains. Donc vous voyez, projet hein, clairement animé par la revanche, la vengeance contre l'ordre institué. Alors en même temps, à côté de toutes ces critiques, on observe, et là encore c'est un signe que l'imitation ne va pas de soi, un besoin de justifier la pratique mimétique. Un besoin qui apparaît même hein, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, alors que c'est une pratique tout à fait instituée et légitime. Et on trouve ça dans des textes même de La Fontaine, comme dans la fable hein, Le Jais paré des plumes du paon, un texte qui est une dénonciation, une critique des plagiaires, mais qui en même temps ne prend pas vraiment position, parce que La Fontaine sait que ses fables sont aussi un texte d'imitation d'Ésope et de Phèdre. Mais donc on voit chez les différents écrivains un besoin aussi d'encadrer les pratiques mimétiques, donc de donner des règles. Alors certains disent que oui, on peut imiter, mais il faut cacher ses sources. Ça, c'est la position de Guès, de Balzac, de Montaigne. D'autres disent qu'il faut au contraire montrer ses sources, parce que c'est plus honnête. Chateaubriand, Burton. Certains disent qu'on ne peut copier que les anciens, parce que ce sont des textes d'autorité, mais avec qui il y a la distance qui les sépare. Ça, c'est la position de Charles Nodier, par exemple. Puis chez certains, on trouve même une véritable des contradictions, voire de la mauvaise foi, puisque certains critiquent l'imitation et puis la pratique en même temps. Alors c'est par exemple Nodier qui dit que le pastiche, c'est un exercice d'intérêt très limité et qui ne peut être que court dans ces questions de littérature légale. Et puis il écrit tout un texte, hein, l'histoire du roi de Bohême et ses sept châteaux, qui est un grand pastiche et qui contient plusieurs pastiches. Balzac a à peu près la même position. Je ne sais pas si vous connaissez les 100 contes drôlatiques. C'est un texte peut-être moins connu que les grands romans de Balzac, qui est écrit en imitation de vieux français, qui était très à la mode dès le XVIIe siècle. Et donc un texte un peu jubilant. Et on a dit à Balzac, bon voilà, c'est un pastiche de Rabelais. Et Balzac, à plusieurs reprises, s'est justifié. Non, je n'ai pas pastiché Rabelais, j'imite une langue. De toute façon, pastiché Rabelais, c'est impossible, etc. Donc on sent qu'il a besoin de dire qu'il imite un état de la langue, donc quelque chose qui est collectif, qui appartient à tout le monde, et pas un écrivain. Vous voyez, parce que le rapport finalement à l'individualité et à la question de la singularité n'est pas du tout le même quand vous imitez un accent, une manière de parler, que quand vous imitez le style d'un écrivain. Voilà, parce que finalement, à chaque fois en jeu, dans l'imitation, soit il y a quelque chose qui répond pour certains à une sorte de lacune identitaire, ça c'est très net chez Pérec. La lacune identitaire traverse vraiment la plupart de ses personnages, de son œuvre, et c'est pas innocent qu'il entre en littérature avec Les Choses, qui est un grand pastiche du style de l'éducation sentimentale. Donc on sent qu'il y a ce pastiche qui répond à un besoin de s'entourer d'une famille. Et d'ailleurs, dans la plupart des textes, hein, Pérec cherche à reconstruire une famille littéraire quand la filiation, sa propre filiation, elle, est brisée, détruite à cause de la guerre, etc. Et dans La Disparition, le personnage d'Anton Veuille, qui est le premier personnage à disparaître, qui est affecté d'une sorte de trouble identitaire, d'amnésie sur son passé, écrit son journal intime pour essayer de s'analyser, de se comprendre. Et la particularité de ce journal intime, c'est que c'est une série de pastiches. Justement, au lieu d'être une écriture autobiographique, ce sont multiplications de pastiches. Et l'un de ces pastiches est une sorte de grande réécriture de Moby Dick, et qui se termine par un. Et c'est juste peu de temps avant que qu'Anton Veuille disparaisse. Et les derniers mots sont à Moby Dick, à Moby Bic, avec une contrepèterie qui associe un symbole du blanc, qui est la baleine, de la disparition, à l'écriture elle-même. Donc l'idée, hein, qu'en même temps, il y a une recherche, vous voyez, d'un support identitaire dans l'écriture, mais qui ne parvient pas à sauver Anton Veuille de sa disparition. Voilà. Alors du coup, on peut, dans un deuxième temps, si vous voulez, au vu de cette situation d'ensemble, ces différentes gênes ressenties face à l'imitation, envisager la manière, avec souvent des paradoxes assez complexes, dont les écrivains ont cherché à repenser une imitation qui soit un défi à l'imitation telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire à l'imitation conçue comme répétition, aliénation identitaire. Donc penser une imitation qui soit source de création, d'invention. Alors la première manière de s'y prendre, c'est de considérer qu'on peut guérir l'imitation par l'imitation. Que l'imitation est une sorte de thérapie contre l'imitation, ou un remède dans le mal, si vous voulez. Et là, le cas le plus célèbre est évidemment celui de Proust, qui a théorisé cela, avec notamment ses pastiches dans un texte qui s'appelle L'affaire Lemoine. C'est une affaire de faussaire, et Proust écrit une série de pastiches de différents, donc il pastiche différents écrivains pour relater l'affaire Le Moine. Donc il y a un pastiche de Flaubert, de Sainte-Beuve, des frères Goncourt, de Saint-Simon, etc. Et alors Proust explique dans sa correspondance, dans une de ses lettres, il explique ceci, alors c'est un passage très connu, je vous le lis quand même. Pour ce qui concerne l'intoxication flaubertienne, je ne saurais trop recommander aux écrivains la vertu purgative, exorcisante du pastiche. Quand on vient de finir un livre, non seulement on voudrait continuer à vivre avec ses personnages, avec Madame de Beauséant, avec Frédéric Moreau, mais encore notre voix intérieure, qui a été disciplinée pendant toute la durée de la lecture à suivre le rythme d'un Balzac, d'un Flaubert, voudrait continuer à parler comme eux. Il faut la laisser faire un moment, laisser la pédale prolonger le son, c'est-à-dire faire un pastiche volontaire, pour pouvoir, après cela, redevenir original, ne pas faire toute sa vie du pastiche involontaire. Donc, vous voyez, un pastiche concerté, délibéré, pour se débarrasser, en fait, de la pulsion imitative, de l'influence du livre qu'on vient de lire. Mais alors, ce qu'on constate, c'est que les choses ne sont pas si claires que ça chez Proust. Parce que déjà, dans l'affaire Le Moine, ce sont des textes assez joueurs où Proust se met en scène à l'intérieur de ses pastiches. Il y a plusieurs pastiches, il y a des pastiches où il intervient comme personnage, alors notamment un duel. Il doit participer à un duel. Il y a des textes qui citent certaines de ses relations mondaines. Parfois, on entend comme sa voix qui se devine à l'intérieur. Donc, on a l'impression que, effectivement, Proust ne veut pas se laisser expulser de l'univers qu'il pastiche. Il imite un univers d'un écrivain, mais il revient à l'intérieur. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans sa correspondance, il explique qu'il veut vraiment faire des pastiches qui ne soient pas des copies. C'est-à-dire qu'il veut faire des pastiches qui soient des créations, qui ne contiennent aucune expression démarquée, décalquée de l'écrivain qu'il est en train d'imiter. Et par exemple, dans son pastiche de Renan, il est très content d'avoir introduit l'adjectif « aberrant », parce qu'aberrant n'est jamais utilisé par Renan, mais que ça fait très Renan quand même. Et dans une de ses lettres à Robert Dreyfus, il explique ceci, après l'impression de l'affaire Le Moine, « J'ai eu deux souvenirs involontaires », c'est-à-dire qu'il a repéré deux endroits où, vraiment, c'est presque de la copie. « J'en suis si désolé que cela m'engagerait à réimprimer ces petits pastiches, rien que pour enlever les deux phrases, deux sur l'ensemble, qui me semblent un peu démarquées. » Et ces deux phrases, il les appelle « deux tâches affreuses » et il ajoute « j'ai tout le temps peur de faire de nouvelles découvertes ». Donc vous voyez l'idée que si on imite, il faut imiter, mais qu'il y ait création à l'intérieur. On pourrait aussi évoquer le cas de Sindal, mais je pense qu'après ça va être trop long. Donc je vais... Sindal est très influencé dès le début par Rousseau. La lecture de Rousseau est un choc pour lui. Et il va sentir que il y a une sorte de mainmise du style de Rousseau sur lui. Et il va donc chercher à imiter des écrivains dont le style est antagoniste, antithétique de celui de Rousseau, pour se libérer. Il dit « je voudrais me dérousseauiser ». Et donc il cherche à imiter du La Fontaine, du style classique, ou même par exemple le Code civil pour la Chartreuse de Parme, sachant que ses premières œuvres à Stendhal sont vraiment des plagiats. L'un de ses textes, hein, écrit sous pseudonyme, c'est « Vie de Haydn, Mozart et Métastase », où il plagie différents critiques d'art, critiques musicales, et il prend des morceaux qu'il assemble ensemble, mais en même temps, il y a création, parce qu'il emprunte, partout, et on voit aussi que la question chez lui de la thérapie vis-à-vis de Rousseau ne sera pas définitivement réglée, puisque quand il écrit son autobiographie « Vie de Henri Brulard », elle se repose nécessairement. Et il y a plusieurs moments de doute où il se dit « est-ce que je dois parler comme Rousseau ? Est-ce que mon projet sera... est-ce que je vais mentir comme Rousseau ?» etc., etc. Donc on voit que de toute façon, même en concevant une imitation contre une autre, vous voyez, il n'y a pas une... Comme chez Proust, hein, finalement. Il n'y a pas une thérapie complète de l'imitation par l'imitation. Alors, autre manière de concevoir l'imitation comme liée à la question de l'originalité et de l'invention, qui est assez étonnante, c'est de concevoir que l'imitation peut améliorer une œuvre ou corriger une œuvre. Alors évidemment, c'est une prise de position qui demeure très subjective puisqu'elle suppose une évaluation des œuvres les unes par rapport aux autres et une question d'une progression. Mais c'est par exemple ce que dit Virgile, qui a emprunté beaucoup, alors notamment à quelqu'un qui s'appelle Ennius, et il expliquait que s'il a emprunté des vers à Ennius, il a tiré des perles d'un fumier. Rien que ça. Alors c'est une phrase qui est quand même qui est très connue et qui est recitée par énormément de gens qui ont imité. De même, on prête à Shakespeare d'avoir dit que... Parce que alors Shakespeare, c'est un grand imitateur, hein. Il y a des calculs qui ont été faits, mais certaines pièces, ça donne le vertige. Il y a des vers entièrement repris à droite, à gauche, et on se demande comment il arrive à faire une pièce en prenant autant de vers à droite, à gauche, et ça tient, hein. Et donc on lui prête ce mot, hein, d'avoir dit qu'il avait tiré une jeune fille du ruisseau en empruntant certains vers. Voilà, parce que finalement l'idée est que, imitant, l'écrivain sélectionne des éléments, les transforme, les met dans un autre contexte, va plus loin que son modèle, et donc participe à une sorte d'amélioration. De ce fait, avec cette justification-là, l'imitateur gagne un peu sur tous les tableaux, puisque non seulement ça supprime l'idée d'une répétition, d'une aliénation identitaire, mais en plus ça crée même presque une dette du modèle de celui qui est imité vis-à-vis de l'imitateur. L'imitateur qui le met en lumière, qui le bonifie, etc. Et on a même pu penser l'idée d'une sorte d'imitation collective, qui est au cœur par exemple du projet de Dubélé pour la Pléiade, dans la défense et illustration de la langue française, où il faut imiter collectivement tous les poètes, les modèles grecs et latins, pour améliorer le français, pour améliorer sa langue, pour créer une poésie française à partir de ce modèle-là. Et on retrouve cette idée d'une sorte de collectivisme impliqué dans un progrès aussi chez Lautréamont. Hein. Lautréamont qui dira, c'est dans Poésie. Alors, qui dit, hein, c'est une phrase célèbre, la poésie doit être faite par tous, non par un, mais c'est une phrase qu'il faut vraiment. Ça ne veut pas forcément dire, bon, tout le monde peut écrire de la poésie, ça veut vraiment dire, on doit s'imiter les uns les autres. Il explique, hein, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. Il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. Donc vous voyez, il y a bien cette idée vraiment d'une amélioration. Et alors, si vous voulez, dernier aspect, hein, thérapie par l'imitation, amélioration par l'imitation. Maintenant, l'idée que l'imitation permet de repenser, à l'aide d'une série de paradoxes, la question du rapport à l'origine. Parce que c'est finalement le problème que soulève l'imitation. Valéry le dit très bien. Il dit: ce qui ne ressemble à rien n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que toute œuvre est imitée, imite nécessairement une autre. Ce qui pose un problème de logique, puisque à l'origine, comment ça peut fonctionner? Si vous voulez, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Hein, qui est-ce qui est venu en premier? Eh bien, cette première œuvre a-t-elle imité une autre œuvre? Voilà, et donc ça, c'est le premier, si vous voulez, le premier paradoxe, c'est celui de penser une imitation qui n'aurait pas de modèle. Donc, je vous cite ce que dit Valéry encore. Le plagiat est à la base de toutes les littératures, excepté la première, qui est inconnue, une sorte de source originale dérobée. Mallarmé, ensuite, tous les grands maîtres antiques sont plagiaires d'Homère, et Homère est un plagiaire de Dieu. Voilà qui règle la question. On trouve la même chose chez Nodier encore, qui. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est une situation assez fréquente. Donc, qui pose bien sûr un problème d'ordre logique. Alors, on peut résoudre ce paradoxe de plusieurs manières. Bon, comment imiter sans modèle? On peut considérer qu'il y a des sources premières perdues. Sources, que ce soit des mythes, légendes orales, etc. Ou sources perdues. Je pense à la sculpture qui est décrite par Pline, qui s'appelle le Laocoon, que Michel-Ange imite sans même l'avoir vu. Donc là, une sorte de paradoxe aussi. On peut penser que la source qu'on imite est même inventée. C'est le cas avec l'affaire Macpherson. Macpherson qui prend le pseudonyme d'Ossian pour publier ses poèmes et qui, et quand Macpherson est soupçonné d'être à l'origine de ces textes, il devient obligé de rédiger ses propres sources pour montrer qu'il s'est inspiré de sources, notamment je crois qu'il est traduit en gaélique lui-même pour montrer qu'il a traduit des poèmes anciens gaéliques, donc qui sont faux bien sûr. Mais voyez, il invente les sources qu'il aurait imitées. Troisième possibilité, il peut y avoir imitation sans modèle si la question de l'imitation est décidé par le lecteur, c'est-à-dire que les ressemblances sont des projections faites par le lecteur, ce qui permet à Proust de voir le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné, ce qui évidemment est une impossibilité logique et chronologique, mais ce qui provient de la manière dont le lecteur peut le lire. Et puis, dernier cas, bien sûr, c'est le plagiat par anticipation. Si vous plagiez par anticipation, évidemment, vous plagiez sans modèle, puisque votre modèle n'est pas encore advenu. Donc c'est la notion développée par Loulipo, alors dans un sens beaucoup plus strict que ça au départ, et qui est mise en scène dans une très belle nouvelle de Pérec qui est Le Voyage d'hiver. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un texte très court. C'est un personnage qui s'appelle Vincent de Graël et qui trouve dans la bibliothèque d'un de ses amis un petit texte qu'il ne connaît pas. Alors, ce Vincent de Graël fait une thèse sur la poésie parnassienne et symboliste de la fin du XIXe siècle. Donc, il trouve ce petit bouquin qui s'appelle Le Voyage d'hiver d'un dénommé Hugo Vernier. Il n'en a jamais entendu parler. Et donc, il le lit et il est saisi par ce livre et par un sentiment étrange de déjà lu, de réminiscence. Et il se met à repérer des vers de Mallarmé, de Rimbaud, de Verlaine, de tous les poètes de la fin du XIXe siècle. Il regarde la date et le texte est antérieur à tous ces poètes. Bon, et Vincent de Graël est persuadé, parce qu'après il ne retrouve rien, il ne retrouve pas d'autres exemplaires du livre, il ne retrouve aucune trace de ce Vernier Hugo, et donc il est persuadé que ce sont les poètes de la fin du XIXe siècle qui l'ont tous plagié, cette œuvre géniale, et qui se sont débarrassés de tous les exemplaires, voire peut-être d'Hugo Vernier, pour s'approprier son œuvre. Et même il devient persuadé que dans certaines lettres signées VH qu'on attribue à Victor Hugo, c'est en fait Vernier Hugo qui a signé les lettres. Et parce qu'il ne peut pas penser à l'envers, et donc se dire ce serait un cas de plagiat par anticipation, puisque bien sûr ça heurte la rationalité. Voilà. J'en termine peut-être avec ce dernier paradoxe, alors j'en passe d'autres, hein, parce qu'on peut vraiment, les écrivains ont été très riches en argumentation pour essayer de contourner toutes ces difficultés autour de l'imitation. Donc j'en viens au dernier qui est peut-être le plus... retors, qui est de penser qu'on peut devenir inimitable en imitant, qui est finalement une sorte de fantasme ultime. Ce que disait d'ailleurs Chateaubriand, il disait « L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter. » Donc déjà, première chose, la question d'être inimitable par rapport à la question d'imiter. Et après, on va voir comment ça se noue ensemble. Alors, on a même pu considérer que l'imitation est une sorte de test, d'abord. Si une œuvre est imitable, c'est qu'elle est de moindre originalité ou de moindre qualité. Une œuvre qui serait inimitable, ce serait la preuve que c'est un chef-d'œuvre. Alors, ça a été un débat au XVIIIe siècle autour de l'imitation qu'avait fait Crébillon-Fils dans l'écumoire de la vie de Marianne de Marivaux. Certains ont vu là la preuve que la vie de Marianne était un mauvais texte, et d'autres au contraire que c'était une imitation ratée, donc que la vie de Marianne était un chef-d'œuvre. Donc on voit bien en même temps que c'est un test qui n'est pas très concluant en soi. Hein. De ce fait, on peut même penser que plus une œuvre a été imitée, plus elle est en fait importante. Parce que plus elle a suscité de désir de la rivaliser, de rivaliser avec elle, donc on en vient à penser que plus une œuvre a été imitée, plus elle est même inimitable, en quelque sorte. Voyez le. Alors pourquoi? Si on logiquement, ça peut s'expliquer par le simple fait qu'à chaque fois que une œuvre est imitée, elle est partiellement modifiée, puisqu'à chaque imitation, une imitation, c'est aussi une interprétation. Vous modifiez ce qu'est l'œuvre à un instant T à partir du moment où vous l'imitez. Vous lui donnez une plus-value, vous l'éclairez par une particularité. Et donc, à chaque fois, elle se transforme. Donc, à chaque fois, elle devient insaisissable. C'est ce que montrait, par exemple, Borges sur un cas extrême qui est celui de la copie avec son Pierre Ménard. Pierre Ménard, vous savez, qui recopie une partie de Don Quichotte au XXe siècle et qui la publie et qui, paradoxalement, crée une œuvre entièrement différente. Parce qu'il est vrai qu'écrire au XXe siècle, si vous recopiez Don Quichotte et que vous le publiez à l'heure actuelle, vous aurez une langue qui sera archaïque, vous aurez un contexte complètement différent parce qu'on ne peut pas le lire comme on lirait Don Quichotte dans son contexte de parution. Donc rien que de toute façon, la différence temporelle fait que l'imitation en tant que telle ne laisse jamais la même chose que son modèle. Voilà, d'où l'idée que finalement, quand une œuvre, cette situation se redouble encore, quand l'œuvre qui est imitée est une œuvre qui elle-même imite. Parce que à partir du moment où l'œuvre que vous décidez d'imiter est elle-même une œuvre qui en imite d'autres, la question se complexifie encore, parce que comment imiter non pas les imitations qui ont été faites, mais peut-être les modèles de cette imitation, si bien que plus vous imitez, moins peut-être vous êtes imitable. C'est ce que disait Bourse sur voiture, il disait cela, hein. En imitant les autres, il s'est rendu inimitable. D'autant plus que quand vous multipliez les modèles dans une œuvre, finalement, vous les mettez sur le même niveau, vous empêchez un modèle de s'imposer et vous montrez comment tous ces écrivains finalement sont précurseurs de votre œuvre, comment finalement ils annoncent le texte qui les imite. D'où, et après j'arrêterai là, dernier fantasme qu'on va trouver dans les essais en particulier, c'est celui à la fois donc, de devenir en quelque sorte inimitable, à la fois en imitant et en étant imité. Des deux côtés, Montaigne qui imitait énormément dans les essais, hein, ça regorge d'imitations, lui qui cache parfois, la plupart du temps, les sources et qui d'ailleurs commande cette démarche, hein, pour expliquer qu'il veut prendre en quelque sorte au piège le critique, le censeur, celui qui dirait « ah ça c'est mauvais, ça c'est bon », etc. pour que critiquant un extrait qu'il croit de Montaigne, il critique en fait un ancien latin ou grec, et qui dit dans les essais « j'aimerais quelqu'un qui sache me déplumer ». Donc quelqu'un qui sache faire comme lui à déplumer les autres, qui sache l'imiter, et finalement qui transforme cette œuvre qui imite au rang de classique, sorte de classique par anticipation, sorte d'autorité comme les anciens en fait, hein. Voilà, donc si vous voulez, les différentes... Alors bon, c'est des paradoxes qui peuvent être creusés à l'infini, mais qui traduisent bien, si vous voulez, à mon sens, le rapport très difficile et le rapport de gêne et de peur qu'il y a avec la question de l'imitation et qui doit vraiment être pensé comme une question existentielle, identitaire, chez un certain nombre d'écrivains. Et d'ailleurs, on constate que, dans un certain nombre de cas, je pense à Montaigne, à Pérec, à Flaubert aussi, la question de l'imitation chez l'écrivain pour écrire son texte se réverbère d'une manière ou d'une autre dans la question du masque, dans la question du double, dans la question de l'altérité chez les personnages. Et on sent qu'il y a il y a un lien assez fort qui se tisse entre ces deux aspects. Merci.